On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Oh, coucou Quentin.
Jean-Luc.
Ça va, Chris? Ah, je dois vous avouer que lorsque j'étais adolescent, j'étais amoureux. Amoureux d'une femme, une vraie. Elle, moi, juste elle et moi. Dans mes fantasmes les plus fous, pas besoin d'être une starlette pour déclencher en moi la tempête. Elle me promettait mon émerveil, m'ayant même surnommé Bernard dans une de ses chansons qu'elle m'avait dédiée. Je m'étais reconnu direct, hein. N'ayant pas de frontières, jamais fatigué, toujours mal rasé, disant toujours oui à un bon verre de vin. Certainement que son mari de l'époque ne voulait qu'elle se doute de rien. Fragilité assumée, force vocale désarmante, charme désarçonnant. Lorsque j'étais au bout de mes émotions, elle me murmurait amoureuse, n'avoir besoin de personne. Et que toute une vie sans se voir, avec toute l'intensité de son phrasé, ne serait dans ses yeux rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Tout en élégance, elle faisait parler son piano et son vibrato, ses douleurs, ses élans et ses tempêtes qui me restaient dans la tête, de ses airs qui jamais ne s'arrête. Le soir venu, lorsque je m'endormais, je rêvais, comme je l'imagine, autour d'un verre, d'une nuit sur son épaule à Bahia ou à Vancouver. Le reste de la nuit pouvait se transformer en cauchemar lorsque mi-maître, mi-esclave, ma pensée comme la sienne s'envenimait. Le spectre de toute une vie sans se voir, sur un coin de mon oreiller, me faisait prier pour que le temps ne soit pas trop assassin. Elle continuait de chanter tout en sincérité. « Si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. » Tout en me murmurant « Pas le temps de galérer, c'est pas la peine de te fatiguer. La vie, c'est long, c'est court. Mais plus trop de temps pour rêver à l'amour. Tu sais, celui qui rime avec toujours. » Et puis, tout comme elle était apparue dans ma vie, elle n'est jamais repartie avec ses mélodies, glissant à demi-mot cette perle de mélancolie. Moi qui rêve encore de vivre à ses côtés, une si drôle de vie.
Bravissimo.
Bonsoir Véronique Sanson, merci.
Merci, c'est tellement joli.
On se tutoie parce que c'est le titre de l'émission, je suis flatté, touché.
Et vous savez, je ne vous vois pas les gamins.
Ouais.
Donc pour toi, pour moi, t'es un gamin.
Eh bien, je suis très 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 heureux, c'est un plaisir, c'est une vraie drôle de vie, parce que quand on regarde, ça a été difficile hein, pour nous, pour moi, de trouver dans 50 ans et plus de carrière, l'air de rien, la dame que tu es, puisqu'on se tutoie, ça commence effectivement avec des rencontres. Déjà, on n'aime pas l'école, ça c'est fait, l'école c'est pas pour Véronique.
Ben, on a toujours dit ça,
ouais.
Mais en fait, c'est pas vrai. Ce qui m'énervait dans l'école, c'est d'avoir à me lever tôt.
Ah, ça c'est énervant.
Voilà, alors là, quand j'avais des cours à 8h du matin, ça a été une cata.
D'accord.
Mais j'adorais l'école. J'étais dans un cours qui s'appelle le cours Atmer.
D'accord.
Et on apprenait beaucoup. On apprenait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient. Alors, tout le monde dit, oui, c'était un cancre. Mais parce que ça fait bien à la radio, à la télé, forcément. Hein. Mais c'est pas vrai. Je te dis pas que j'ai adoré l'école.
Mm-hmm.
Mais je sais que j'ai tellement appris. On m'a tellement appris à lire.
À découvrir.
À découvrir. Et il y avait des professeurs merveilleux que j'adorais, vraiment.
Alors, il y a eu la période école, et puis après, on est dans le grand bain, puisqu'on parle de musique sur Nostalgie, il y a la rencontre avec Michel Berger, quand même. Là, elle se fait très tôt, cette rencontre avec Michel.
Ah ben oui, nos parents se connaissaient bien, et je sais que papa... emmenait Mamoun, c'est-à-dire Annette, la maman de Michel.
D'accord.
Ils allaient danser ensemble dans des balles, ce qu'on pourrait appeler maintenant des rallyes.
D'accord.
Ça ne s'appelle plus comme ça.
Non, ça ne s'appelle plus comme ça, mais...
Il n'y en a plus.
Oui, oui.
Les gens, ils dansent même plus de slow.
Oui, ça c'est catastrophique.
Alors là, c'est catastrophique.
Oui.
Tu te rends compte de ne pas pouvoir inviter une fille à danser.
Ah ben non, d'un seul coup, c'est plus dans la société.
Et l'autre qui est désespéré.
Bien sûr.
Parce qu'elle fait tapisserie, et c'est terrible. Mais enfin, voilà, donc on se connaissait depuis très très petit. Puis après, on s'est un petit peu perdu de vue. On s'est perdu de vue et après, on s'est re-rencontrés.
La passion commune de la musique, elle est venue comment ? Il y a eu un déclic sur la musique, tant chez Michel que sur Véronique, non ?
Mais énorme !
Ouais.
Et c'était... On était des jumeaux, était des...
Oui, c'est ça.
On était inspirés par les mêmes choses. On était très durs l'un envers l'autre. Je me souviens, parce que je dis, moi, je vais faire une chanson pour demain. Mm-hmm. Et toi, même pas cap.
Ah ouais.
Je dis, bah, tu vas voir si même pas cap. Non, rien du tout.
Mais ça sortait plusieurs chansons par semaine, alors.
Ah, mais tout le temps, tout le temps.
Donc, il y a eu cette émulation qui s'est créée entre vous deux. Il y a eu les émotions, il y a eu de l'amour. Et puis, en parlant d'amour, en 70, eh ben, il y a la femme amoureuse qui arrive.
Quand je suis...
Ça c'est pour nous sur Nostalgie, c'est un déclic quand même. Cet album est un déclic, Amoureuse.
Ah oui, tout l'album.
Ouais.
Parce que c'était, je crois que j'étais la seule fille à jouer du piano, à composer. Je dis pas ça pour me vanter hein, du tout. Enfin, j'étais auteur, compositeur, interprète.
Bien sûr.
Arrangeuse. Et tout.
Ce qui a dû déranger les gens, c'est que tu n'as eu besoin de personne. Ça a dérangé, ça, non ? Parce que arrangeuse, musicienne, chanteuse, pianiste, au bout d'un moment, ça dérange qu'une femme sache faire tout ça d'un seul coup, non ?
Ah, peut-être que ça dérangeait des gens, mm-hmm. mais... on me dit toujours, oui, mais on sait que tu n'as besoin de personne. Alors que, en fait, si t'écoutes le texte, c'est « Je n'ai eu besoin de personne pour le rencontrer un jour ». Donc, ça ne veut pas dire que dans ma vie, j'ai jamais eu besoin de personne. Moi, j'ai besoin de tout le monde. Sinon, je suis triste et j'ai l'impression que... qu'on m'aime pas et qu'on...
Et puis s'il n'y a pas de partage, ça sert à rien, quoi.
Bah non.
Oui, c'est ça. Et okay. Alors après, la chanson qui bouleverse nos vies, et moi en particulier, on est sur Nostalgie, et dans ce même album, il y a cette fameuse drôle de vie.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête. Et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie.
On roule à la cool avec Jean-Luc. Top départ pour le week-end.
On se tutoie
avec Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Donc là, l'un sans l'autre, on n'est rien. On n'est rien, c'est ça, la drôle de vie. Pour moi, ça a été un élément déclencheur, comme moult personnes que tu dois rencontrer sur ta route. La drôle de vie, en 2025, tout le monde la chante, tout le monde connaît les paroles par cœur.
Oui, alors, il y a eu un film qui s'appelle « Tout ce qui brille ».
Ouais.
Alors que cette chanson « Drôle de vie », je l'ai écrite en 72 ou 73.
Mmh, 72, ouais.
1972.
Et pas 1872.
Oh, ça pourrait.
Oui, ça pourrait.
Ouais. Non, mais... et les gens croyaient que je l'avais écrite au moment où « Tout ce qui brille » est sorti.
Et pas du tout.
Pas du tout.
Alors, quel a été le déclic de l'écriture de cette chanson ? Tu te rappelles dans les conditions où tu étais ? Parce que c'est une chanson qui a des décennies et des décennies, qui marche encore. Tu te rappelles de ce déclic ? Je vais chanter, je vais écrire La Drôle de Vie. Est-ce que tu t'en souviens ?
Non, je m'en souviens pas. Mais je me souviens que j'étais très, très, très influencée par les Beatles.
Ouais.
Mais le texte, je sais pas, je crois que c'est venu exactement en même temps que la musique, comme beaucoup de fois d'ailleurs. Parce que moi, j'écris toujours la musique d'abord. Parce que la musique, c'est porteur. Et puis ça, comment dire...
C'est la base. Ce sont les fondations.
Oui.
Il y a toute la structure qui est là.
Et ça te donne aussi le phrasé.
Le phrasé. Ouais.
Le phrasé de texte. Voilà. Mm-hmm. Et c'est pour ça que la musique est... Et moi, j'écris toujours la musique avant, mais j'en écris plein exactement en même temps.
Il y a quand même des rencontres. Alors, la spontanéité de Véronique Sanson, elle est extraordinaire. Donc, effectivement, sur la route, on rencontre Stéphane Steele et ça y est, on décide de tout larguer d'un seul coup. On s'en va. Adieu Michel, adieu tout, adieu la France. Et il y a une femme qui t'aide à ce moment-là, qui s'appelle Nicoletta, c'est ce que j'ai compris ?
Oui.
Et elle t'aide en disant, je vais
elle
payer.
Elle m'aide parce que j'avais pas d'argent.
Oui.
J'avais pas un rond,
ouais.
Pas un fifrelin,
ouais.
Rien. Mm-hmm. Et je lui dis, mais tu sais, moi je voudrais partir, mais j'ai rien. Elle me dit, mais quelle est la tienne ?
Ouais.
Elle me dit, ce que tu veux, voilà.
D'accord.
Et c'est elle qui m'a aidé à
traverser l'Atlantique.
À traverser l'Atlantique. Et aussi à vivre là-bas.
D'accord.
Parce que moi, j'aime pas être entretenue. J'aime pas qu'on m'invite tout le temps.
Bien sûr.
Il y a
l'indépendance, la fierté.
Oui, absolument. Mm-hmm. Et puis, il n'y a aucune raison d'ailleurs.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Véronique de dire, ça y est, je pars de France, d'accord. Il y a quelqu'un avec qui je m'entends bien qui s'appelle Michel Berger. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé pour tout larguer comme ça? Si c'est indiscret, tu me dis, il n'y a pas de problème. Hein.
Non, c'est pas indiscret parce que c'est. Je suis sûre qu'il y a des tonnes de gens à qui c'est arrivé ça.
Oui, mais qui n'ont peut-être pas eu le courage que tu as eu de partir.
Ah, mais moi, c'était l'appel du large. Hein.
D'accord.
Ah, mais vraiment. Et je pense que tu peux pas savoir comme j'aimais Michel et comme je l'aime toujours. Mais j'ai rencontré Steve. Qui était un cow-boy, alors que Michel était très sage.
Ouais, trop.
Super trop sage.
Ouais.
Pour moi. Mm. Et puis je rencontre...
Un cow-boy.
Steve, un cow-boy extrêmement talentueux. Pour moi, c'est un des plus grands guitaristes du monde, un des plus grands compositeurs du monde.
Oui, on rappelle aux auditeurs que c'est Steve Crosby & Nash quand même, quelque part, hein.
Crosby, Stills, Nash and Young.
Oui, and Young, oui. Et donc, ça y est, on s'en va, on part. Tu parles de Michel Berger, c'est assez étonnant, parce que tu dis que tu l'aimes toujours. Il y a une sortie d'album qui s'appelle Le Maudit, et ça donne ça. Et tu lui dédicaces cet album. Non ?
Tout le maudit, c'est pour lui.
Ouais.
À part une ou deux, voilà. Tout.
Traverses l'Atlantique et tu sors une chanson qui dit « On m'attend là-bas dans un autre monde, dans une autre galaxie ».
Ouais, exactement. Et j'étais tellement misérable d'avoir fait ça, en plus de la manière dont je l'ai fait.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai...
Assez prime sautière, quand même.
C'est pire que ça, oui.
Pas élégante du tout.
Non.
Il a souffert de ça ?
Mais oui, mais je crois qu'il a autant souffert que moi.
Ah ouais.
Parce que moi, je me suis dit, mais pourquoi je suis partie ? Mm-hmm. Pourquoi je suis partie alors que je l'aime ? Et voilà, je ne savais plus quoi penser. Je voulais lui... Comme je n'osais pas lui téléphoner pour lui dire, tu sais, je regrette et je reviens...
Par fierté ?
Non, pas par peur qu'il me dise, va te faire foutre. Voilà.
C'est une histoire de fou. Tu le revois après ?
Oui, mais très longtemps.
Vous vous expliquez ?
Pas tellement. Non, on se regardait comme avec des... À la place des pupilles, c'était des cœurs et des étincelles.
Extraordinaire.
Oui.
C'est une histoire de fou, cette histoire d'amour de dingue. En parallèle, tu continues ton petit bonhomme de chemin, destination les États-Unis. Et Stephen Stills joue quand même un grand rôle, parce que de l'autre côté de l'Atlantique, voire même de l'autre côté des États-Unis, il y a Vancouver. Et alors oui. Là, on est très très... Stephen Stills, il y est pour beaucoup, non, dans ce morceau-là?
Pas du tout.
Non?
Ah non, non, non.
Non?
Je crois que c'est le seul morceau que j'ai écrit pour personne.
Ah ouais?
C'est comme, par exemple, Bernard Sand.
Oui.
Tout le monde croit que c'est quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est pour personne, parce que Bernard Sand, c'est moi.
Mal rasé.
Ouais, mal rasé.
D'accord, toujours fatigué.
Toujours fatigué.
Toujours, oui, un bon verre de vin.
Ouais, absolument.
Donc Bernard, c'est Véro, quoi.
Bernard, c'est moi.
Ça, c'est fantastique.
C'est comme le maudit. Le maudit, c'est moi.
L'inspiration, elle continue à être là, même outre-Atlantique. Le piano, la partition.
Mais surtout outre-Atlantique, parce que en France, on n'était pas. On était beaucoup moins libre. C'était...
Ça veut dire quoi, cette liberté? Parce que tu as toujours eu une liberté, toi, de t'exprimer, qui était quand même hors norme, avec ton piano, avec tes mots. C'est quoi ce genre de liberté dont tu parles?
Eh bien, par exemple, quand je suis allée aux États-Unis et tout ça, c'était pas du tout la même manière de travailler.
D'accord.
La manière de donner son temps. De donner ses idées. Mmh. Il y avait beaucoup de partage, beaucoup de...
Bienveillance.
Et de bienveillance. Uh-huh. Alors que moi, j'étais ça, c'est un mot que je déteste. C'est la petite Frenchie. Je hais quand on dit, ah ben oui, le petit Frenchie. Comme si nous, on était... Ça nous donne un complexe d'infériorité.
Mais c'est ça. C'est totalement dénigrant, quoi, quelque
oui,
part.
Oui, exactement. Oh, le petit Frenchie.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà. Et moi, quand je me suis mariée avec Steven, on disait, ah, il y a la petite Frenchie.
Ah ouais. C'est blessant, quoi.
Voilà.
Ah ouais, c'est blessant. Ouais.
Et même France, Gal, qui a joué avec Elton John, on disait, ah, oh, c'est la petite Frenchie.
Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer.
Yes.
Bien sûr.
Voilà. Ouais. Et ça me tuait, ça, de dire la Frenchie.
Alors la Frenchie, elle fait son petit bonhomme de chemin, toute seule quand même, outre-Atlantique. Septième album, et comme on en parlait, alors là, je tire ma révérence. Là, tu plies le game, hein. Là pour là, écoute ça. Lorsque je n'aurai plus le temps.
Ah ben oui.
On écoute ça sur Nostalgie. Véronique Sanson.
Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage. Quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage. Je tire ma révérence. Ma révérence.
On se tutoie.
Et on profite enfin du week-end. Jusqu'à 20h. Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Ah, oh, ça, c'était dans le Colorado.
Ouais.
J'ai écrit ça.
D'accord.
Parce que je venais d'avoir mon petit bébé.
Mm-hmm.
Et j'avais tellement peur qu'on me le prenne. Ce qu'on a fait, d'ailleurs.
Et aujourd'hui, quand tu écoutes ça...
Je suis désolée d'être si silencieuse.
Mais... Non, mais c'est pas grave. Non, mais moi, je t'écoute. Tu sais, il n'y a pas de problème. C'est hyper émouvant. C'est hyper éprouvant de l'écouter, parce que quand tu la chantes, c'est différent, mais quand tu l'écoutes, je vois que c'est quelque chose.
Ah, oui, oui.
C'est tu vois la vie qui passe, tu vois les moments où tu étais, tu la ressens comment aujourd'hui, cette chanson, quand tu l'écoutes, hein, pas quand tu la joues?
J'ai envie de pleurer.
Voilà. Ouais. Ah ouais, non, mais j'ai vu. Ouais.
Et c'est vrai que sur scène, jamais je la joue de la même façon.
Mm-hmm.
Jamais. Parce que ça dépend des humeurs, ça dépend de tes humeurs.
Bien sûr.
Et quelquefois, je le joue beaucoup trop vite. Quelquefois, je comme un escargot. Parce que j'écoute les paroles. Parce que moi, quand je dis des paroles, quand je chante, j'écoute mes paroles.
Et tu les vis complètement, surtout.
Eh ben, je les vis, évidemment. Bien sûr que je les vis, oh là là. Oui.
Là, s'il y a quelqu'un qui vit des choses à 200%, c'est bien toi. On va reparler, évidemment, de toutes les dates, parce que c'est quand même ton moteur, la scène. Il faut le dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te nourrit amplement. Et on va en reparler parce que tu as quand même une année assez chargée, je dirais, en 2025. Fin d'année, je crois que tu vas pas être énormément disponible pour faire la cuisine. Enfin, j'ai vu les dates, il y en a quand même un paquet, là.
Oui, il y en a un paquet.
Hein, on est d'accord. Donc, si elle veut faire la cuisine...
Mais tant mieux.
Moi, je veux bien aller manger chez Véronique pour déguster un petit peu.
Mais tu viendras un jour off.
Avec un grand plaisir.
Ah oui. Je te ferai des rouges barbets, des filets de rouges barbets...
Non.
...à la sauce de romarin.
Alors ça, c'est extraordinaire. Mais il y a quand même il y a des arêtes dans les rougets, hein.
Ah, mais moi,
oui,
j'ai une pince spéciale.
Ah non, mais ça, je sais.
Parce que moi, je te laisse
jamais... Personne
ne m'a dit
rien.
Mais jamais.
Pourquoi vous n'avez rien dit, vous?
Une arête dans un poisson, hein.
Non mais les rougets, elles sont... Les rougets, elles sont quand même très, très fines, les arêtes.
Ah non, c'est pas la truite, hein.
Non, mais la truite, en plus, il y a une petite dent et tout ça.
Non,
je vais reparler des rougets, fais attention, hein, fais attention. Je voudrais juste qu'on continue un petit peu la carrière de Madame Véronique Sanson. Il y a quelque chose, j'aimerais avoir ton avis à aujourd'hui. Tu fais partie de la toute première tournée des Enfoirés.
Oui.
C'est quand même l'ami Coluche en 86 qui secoue le cocotier et qui met des espèces de balises Argos, attention, danger pour les gens qui sont plus les plus démunis. Et tu fais partie des 6 ou 7 personnes qui filent un rancard à ceux qui n'ont plus rien. Tu l'as vécu comment à l'époque, cette épopée? Parce que vous êtes quand même une poignée de chanteurs. De mémoire, comme ça, il doit y avoir Goldman, il y a Drucker qui parle, il y a Eddie Mitchell, il y a qui?
Il y a Johnny.
Ouais.
Il y a Michel Sardou.
Bien évidemment.
Eddie.
Oui, il y a Eddie Mitchell, c'est ça, ouais.
Jean-Jacques, Goldman.
Ouais.
Et moi.
Vous le vivez comment de l'intérieur? Vous sentez qu'il y a quelque chose de fort qui se crée à l'époque où vous êtes une bande de potes et vous dites il faut qu'on y aille ensemble pour porter un message? Ça se passe comment dans ta tête à toi?
Mais nous, quand on nous a proposé ça, on a dit tout de suite oui.
Mm-hmm.
Mais tout de suite oui, parce qu'on faisait du haut. Et moi, j'admirais beaucoup tous les gens qui étaient présents sur scène.
Mm-hmm.
Mais c'était pour aider,
mm-hmm,
parce qu'on était tous fous de Coluche.
Bien sûr.
Parce que c'était un merveilleux. Je trouve qu'il devrait être président de la République, voilà.
Oui.
Donc, franchement, t'es pas d'accord?
Ah non, mais si j'en suis persuadé.
Non.
Aujourd'hui, avec le recul, l'évolution des Enfoirés, toi, tu as lâché le projet à un moment. Pourquoi t'as lâché?
Ah ben non, j'ai rien lâché du tout. C'est eux qui m'ont lâché.
Ah, ouais. D'accord. À un moment donné, ça sonne plus. Merci, on n'a plus besoin de toi.
Non, parce que finalement, maintenant, ça s'appelle les Restos du Cœur.
Oui.
Mais nous, les purs et durs, on a fait le premier truc.
Bien sûr.
Et qui s'appelait les Enfoirés.
Ouais.
Donc, ça. Et après, donc, si ce qu'on m'a dit est juste, tu sais, les gens se déguisaient.
Oui.
Des trucs. Il y avait des gens, on ne sait même pas pourquoi ils étaient là. Mais enfin, tant mieux qu'ils étaient là, si c'était des gens très connus. Et
puis qui servaient la bonne cause aussi.
Et qui servaient la bonne cause, bien sûr. Et tout. Et on m'a laissé entendre. Alors, si c'est pas vrai, Jean-Jacques Goldman m'appellera. Mais il a dit, Véronique Sanson, elle se déguise pas. Je ne veux pas qu'elle soit déguisée.
Ouais.
Voilà. Alors, maintenant...
D'accord. C'était une autre histoire. Vous avez ouvert la porte et après, ça vous appartenait plus, mais au moins, la trace, elle était là, quoi.
Puis c'est ça qui a lancé vraiment très, très fort les Restos du cœur.
Bien sûr.
Parce qu'il y avait des gens formidables aussi là-dedans. Et tout le monde s'amusait.
Et puis tout le monde se sentait utile aussi.
Oui. Ça, c'est vachement important. Mm-hmm. Nous, quand on a fait Les Enfoirés, c'est vrai qu'on s'est bien marré, c'est vrai, mais on avait l'impression que ça servait à quelque chose, que ça allait aider beaucoup, et ça l'a fait.
Et ça l'a fait, mais même plus que ça. C'était la petite parenthèse Resto du cœur, bien évidemment. Et puis après, on continue, chemin faisant, 1992, l'album Sans Regret, avec dedans Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Composé, chanté à la basse par Bernard Swell, c'est ce que j'ai compris ?
Swell.
Bernard Swell, excuse-moi pour la prononciation. Mais ça aussi, c'est quand même un élément détonateur, non ?
Je crois que c'est la première victoire de la musique que j'ai eue. Avec cette chanson-là.
Ouais.
Que Bernard a composée, que je trouvais extraordinaire. C'était vraiment bien.
Bernard, c'était quand même un ami ancien guitariste de Hugo Frey, c'est ce que j'ai compris.
Oui, c'est ça. Et puis après, on s'est rencontrés et on a vécu ensemble une merveilleuse histoire. Et nos fils avaient le même âge et tout. Je crois que c'est un des plus beaux moments, une des plus belles périodes de ma vie.
Ah ouais, et puis la victoire de la musique, c'était extraordinaire.
Oh oui, mais ça, c'est rien.
C'est rien, mais ça touche, ça fait
évidemment
quoi
que ça fait plaisir.
Oui.
On est super honorés, ça fait plaisir.
Hein? Oui, oui, voilà, ils sont bienveillants avec toi et
oui,
ça flatte.
C'est une sorte
ça
de reconnaissance aussi.
Aujourd'hui, la reconnaissance, c'est quoi? C'est le public? C'est toutes ces générations qui chantent Véronique Sanson? C'est quoi?
C'est ça.
Ouais.
Je crois que c'est il y a plein de choses qui sont. Bon, il y a les victoires dans la musique et tout ça, mais moi, j'ai jamais été aussi. Mais fière de recevoir le grand prix de
l'Académie française, oui.
À l'unanimité.
Ouais.
Alors là, ça m'a. J'étais bleue, verte, jaune.
Ouais.
J'ai trouvé ça merveilleux. Vraiment, c'était ça.
Oui, parce qu'une fois de plus.
Un beau moment, un merveilleux moment.
Il y a une fierté, mais c'est de se sentir utile à quelque chose, non seulement musicalement parlant, mais par rapport au message que tu envoies dans tes chansons. C'est surtout ça qui est fort.
Merci de me le dire.
Non, mais je le redis. Parce que les messages, ils continuent encore et encore. Parce que quand on continue ta carrière, on s'aperçoit que juste avant l'an 2000, il y a un album et il revient encore et encore à Michel Berger sur Le Paradis Blanc. Tu vas loin, là, quand même. Hein.
C'est lui qui l'a écrit, hein.
Ouais, non mais tu reprends un duo, il est plus là, mais lui chante avec toi, tu chantes avec lui.
Eh oui, je crois qu'on n'a jamais été séparés. Jamais.
Monte le son et écoute ça comme ça. Loin des regards de haine et des combats de sang. Exactement comme avant, et puis voilà, ça continue avec effectivement il y a Tout ce qui brille, avec la chanson La drôle de vie qui revient, et puis en 2016, il y a cet album qui est assez rigolo parce que je me suis plongé dans ta vie, mais d'un seul coup il y a les poules, il y a les chevaux, il y a les canards, il y a la vraie vie, et ça donne Digne d'un donc. ans après le premier album, boum, on tombe sur un disque d'or en 2016. Ça va pas, Madame Sanson? Vous n'en avez jamais assez ou quoi? Non mais franchement. Non mais avec les poules et tout, j'ai vu le clip, c'était très heureuse d'être au milieu de tout ça, quoi.
Ah oui, évidemment. Mm-hmm. Évidemment. Parce mm-hmm. que j'en avais été privée si longtemps mm-hmm. que moi, j'avais pas envie, quand je suis rentrée en France, quand on m'a permis, et je parle du gouvernement américain, la loi américaine, ils m'ont laissé rentrer en France avec oui. mon fils.
Oui.
Et moi, j'étais tellement contente parce que j'avais pas envie de faire de disque du tout. Mm-hmm. Tout ce que je voulais, c'était m'occuper de mes poules,
ouais.
jardiner, tout ça.
Dans sa bulle, être une maman et...
Ah oui, oui.
Voilà, c'est ça, le quotidien.
Et la musique, ça, je me disais, ça viendra après. Mm-hmm. Et je suis resté assez longtemps sans écrire. Hein.
Ouais. Et ces moments-là, on fait quoi? Outre le phénomène de profiter de la vie, ça ne démange pas dans les doigts le piano parce que...
Non.
Non
pendant au moins 2 ans, 3 ans.
Oui.
Mais ça ne m'a pas démangé du tout. J'avais peur de mon piano. J'avais peur qu'il ne me réponde pas. J'avais peur de lui parler et qu'il me réponde. Qu'est-ce que t'as, toi, à me toucher? Qui avait trouvé ce truc. Mais ça m'avait fait beaucoup rigoler à ce moment-là. Mm-hmm. Mais je trouvais que la Noiraude, ça faisait nom de vache.
Oui, c'est un peu péjoratif, quoi.
Oui.
Il n'y avait pas le respect de ce que peut t'offrir le piano.
Alors que, si tu savais, comme c'est une merveille de piano, c'est un Bösendorfer, mm-hmm. c'est extraordinaire. Il y a des basses qui sont... Même les Steinway, mm-hmm. que j'adore, mm-hmm. eh ben, ça...
Ça sonne pas pareil.
Ah, que non.
Ah, que non.
Ah, que non.
Ah, que non. Alors, écoute, dans un instant, évidemment, on va parler de toi et de ce que tu vas faire cette année. Je sais pas où tu vas trouver toute l'énergie pour aller au plus proche des Français, mais on va en reparler dans un très court instant.
Nostalgie. On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment, en podcast, sur l'appli Nostalgie.